Salut, c'est Champ Libre. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Salut. Bonsoir à tous et à toutes. Champ Libre numéro 609. J'attends avec impatience le 666 pour faire une émission
spéciale
entièrement consacrée.
Diabolique.
Voilà. En attendant, 609e Champ Libre. Un Champ Libre avec les invités que vous avez entendus. Damien pour la partie
métallique.
Et Joe.
Eh oui.
Pour le cinéma.
Cinéma, où est-ce qu'il en reste ?
Alors, Laurent, évidemment, derrière les manettes. Bon, on va commencer par la presse qui est arrivée dans la boîte à lettres de Champ Libre aujourd'hui. Alors, bien sûr, comme chaque mercredi, sauf éventuellement pas de naissance, le dernier numéro de Charlie Hebdo, numéro 1244, avec une couverture consacrée à la vision de disparus de Égyptaire, mais également aux casseurs qui se sont manifestés dans les manifestations. Donc on voit des casseurs sur le dos de l'avion en train de le massacrer à coups de bâton. Et la couverture, c'est cette fois, c'est trop, messieurs les casseurs. Voilà. Alors je regrette que ce soit pas trop radiophonique, mais enfin, voilà. Dans le Charlie Hebdo, un très bon article sur l'Arabie Saoudite. Et en particulier, vous le savez peut-être, sur un blogueur qui s'appelle Raif Badawi, qui a été interpellé, arrêté, condamné. Condamné à quoi ? On est en 2016. Condamné à 1000 coups de fouet. Alors, il a reçu les 50 premiers, et on le soigne, là, pour qu'il soit en état, afin de recevoir la suite. Donc, dans le Charlie Hebdo, une page consacrée à ce blogueur. Et une interview de la femme du blogueur qui raconte, et ça m'a énormément intéressé, que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce que dans des pays comme l'Arabie Saoudite, on a accès à Internet que les choses changent. En fait, ça reste comme avant. Alors on lui dit, mais comment se fait-il que la société saoudienne ne réagisse pas ? Ben elle répond, ben en fait, les gens sont habitués. C'est-à-dire que ce qu'ils voient sur Internet, c'est déconnecté de leur réalité à eux. Donc finalement, rien ne change.
À côté de ça, des coups de fouet en plusieurs fois, c'est un peu comme du 3 fois, 4 fois sans frais. Ça reste moderne quand même. Hein,
voilà, je sais pas, choisis ton camp de camarade, comme disait l'autre. qu'est-ce qu'il y a de... Ah oui, si, Joe, dans le numéro de Charlie Hebdo, il y a une chronique sur un film qui ressort au cinéma, qui avait été réédité dans une très belle édition DVD il y a pas si longtemps que ça. C'est un film de monsieur Michelangelo Antonioni,
oui.
Qui s'appelle Zabriskie Point.
Oui, excellent, voilà. Excellent film. Oui.
Et qui raconte la révolution psychédélique,
ah oui, psychédélique,
mais révolution. Dans le désert, la vallée de la mort, Zabriskie Point. Il faut pas me dire deux fois, j'y retourne et j'y reste. Grateful Dead, Pink Floyd, etc., etc.
Magnifique.
À mon avis, un film à mettre un cran en dessous de Easy Rider, mais pas loin,
pas juste après.
Voilà, et puis je termine avec les revues de la semaine. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le dernier numéro des Inrecuptibles, avec en couverture M. Mélenchon. Excellente interview, d'ailleurs, très très intéressant ce que raconte le mec. Et puis aussi un article consacré aux Kills. Donc nous, on en reparlera très bientôt, puisque l'album arrive début juin. Voilà. Puis évidemment, et on va en parler tout de suite après le premier titre musical, un grand article sur le Festival de Cannes. Voilà. Oui. On commence en musique avec un album d'un groupe qui s'appelle Lonely the Brave. Leur album sort ces jours-ci. Il est intitulé Things Will Matter. Lonely the Brave, c'est un groupe qui n'est pas nouveau. Je crois que c'est leur deuxième ou troisième album. Et Lonely the Brave, c'est un groupe qui a compris que aujourd'hui, on faisait la musique dans des stades, dans des festivals. Donc tous les morceaux qu'ils écrivent sont conçus pour ça. Comme on dit, du rock héroïque.
Héroïque.
Hein? C'est à cause de YouTube, ces choses-là. Voilà. Alors, j'ai écouté l'album Things Will Matter et j'ai été agréablement surpris parce que tous les titres ne sont pas héroïques, ne sont pas construits pour le stade. Et du coup, il y a quelques variations dans l'ambiance du disque. Donc, ça vaut le coup de l'écouter quand même. Lonely the Brave, on commence avec un titre, Radar. C'est pour que Laurent trouve son chemin. Lonely the Brave, groupe rock chouchou de la presse rock anglaise. Je le disais tout à l'heure, l'album ne sort pas ces jours-ci. Il est sorti le 20 mai, donc il y a quelques jours. Et c'est un groupe qui est habitué des gros concerts, puisqu'ils ont déjà fait les premières parties du Boss, Springsteen, mais également de notre ami Neil Young. Des Deftones, ils ont joué à Reading, Leeds, Glastonbury, etc., etc. Donc c'est un groupe dont on risque d'entendre parler encore. Lonely the Brave. Jo, tu nous fais ton cinéma ?
Absolument. Je vais vous parler de l'ancien plus grand festival du film du monde, C'était un festival qui prenait l'originalité, la prise de risque dans sa sélection, une ouverture sur d'autres horizons cinématographiques, même jusqu'à s'octroyer des petits scandales quand certains films choquaient dans le fond, dans la forme. Et alors que d'autres festivals ont repris le flambeau de proposer des films innovants, pouvant changer le langage, la forme cinématographique, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, que reste-t-il, messieurs, du Festival de Cannes aujourd'hui ? Oh, un petit champ de ruines artistique quand même, il faut le dire. Donc heureusement ou malheureusement, certaines choses n'ont pas changé et ne changeront pas. Je parle bien sûr de cette montée des marches kitsch, vieillotte, où des starlettes déambulant devant des photographes hystériques se bousculant pour avoir l'exclusivité d'un morceau de téton qui dépasse de la robe, ou des stars défraîchies qui se trémoussent munies de ce qui s'apparente à une tenue de soirée. Bref, c'est au lieu du festival du film, c'est plutôt le festival de la viande avariée. Bref, que dire de cette sélection insipide et ce palmarès anodin et pitoyable, la plus navrante, comme dirait Télérama. Le jury a voulu récompenser des films sociaux forts pouvant réveiller les consciences. Est-ce donc décent de le faire dans un festival bâti à coups de millions où les billets, les bijoux, l'alcool coulent à flot ? Ken Loach lui disait qu'un autre monde était possible, je me plais à le croire en effet, mais peut-être en vain. Car le festival de Cannes aujourd'hui n'est plus qu'une ombre, une sombre, triste vitrine hein, qui revient à la même période chaque année, un peu comme les soldes d'ailleurs, on brade une compétition avec des cinéastes primés une multitude de fois. Près de la moitié des cinéastes présents avaient reçu des prix. Je ne vais pas tous les énumérer, c'est pas la peine. Et un film, Tony Erdmann, par exemple, réalisé par une femme quasi inconnue, la seule de la sélection, qui proposait une comédie déjantée, originale et réjouissante, bah non, tiens, on va récompenser Ken Loach, qui a déjà reçu 4 prix à Cannes, on va récompenser Xavier Dolan, déjà récompensé. Bon, bref, le festival de Cannes n'a plus besoin de nouveautés, il est devenu, comme les médias, la télévision aussi, consensuel, conventionnel, standardisé, calibré, sans âme, malheureusement. Adieu. Le festival de Cannes.
Je te sens bien écrit.
Ah oui, complètement. Ah, oui.
Tu parlais de tétons cette année, à part les tétons de Iggy Pop.
Non, Elsa Zilberstein a joliment fait tomber un petit pan de sa robe à la Sophie Marceau et on a brûlé un téton. Mais disons que vu que sa poitrine est un petit peu moins impressionnante que Sophie Marceau, ça fait un peu moins le tour des médias, malheureusement. Ou heureusement. Je sais plus du coup.
Alors, qu'est-ce qu'on peut sauver quand même alors, ce festival qu'on, finalement, qu'on tu, peut... bon, tu dis que les films qui ont été primés, les réalisateurs qui ont été primés l'avaient déjà été, mais après tout,
ouais,
je vais faire l'avocat du diable, Ken Loach,
non, c'est pas mal, c'est tout le temps. Enfin, je veux bien qu'on récompense un petit peu les téléfilms sociaux du dimanche soir, mais. Ken Loach, sa forme reste la même depuis 40 ans, comme les frères Dardenne, comme Almodovar, même si j'aime beaucoup Almodovar. Mais de voir ces réalisateurs encore présents à chaque fois qu'ils sortent un film, c'est la garantie. À chaque fois qu'ils sortent un film, c'est la garantie de les voir à Cannes. Moi, je prône quand même, et de nombreux festivals, dans, que ce soit la Berlinale, hein, le festival de Berlin qui se passe toutes les années en février, ou le festival de Locarno en Suisse, ou San Sébastien par exemple, hein, prône des cinémas différents, des cinémas... Je mets demain au défi de faire comme le festival de Berlin, c'est-à-dire de diffuser les films de Lav Diaz qui durent de 6 à 8 heures, rien que pour montrer... un défi artistique et narratif. Je mets au défi le Festival de Cannes de faire une chose pareille.
Est-ce que finalement le Festival de Cannes, ça ne serait pas un petit peu la même chose que le Festival de Vienne pour le jazz ? C'est-à-dire un truc qui n'est plus vraiment jazz, qui est un peu middle of the road, un peu variétoche, pourrait peut-être avoir. Et puis qui attire du monde.
C'est
donc
vrai
du coup, on pourrait avoir l'équivalent.
C'est vrai que le festival de jazz attire un petit peu tout le temps les mêmes personnes. Après, heureusement, il n'y a pas de distribution de prix. Là, c'est malheureusement. Amis, voilà. Mais là, on a quand même la possibilité de récompenser, de mettre en avant, en fait, de jeunes artistes. C'est ce qu'on ne fait pas. Alors, pour le coup, la compétition n'a pas été très reliée dans les médias. Ce qui était beaucoup moins le cas des compétitions annexes, c'est-à-dire la quinzaine des réalisateurs, que ce soit un certain regard, on a eu quand même des films beaucoup plus relayés, beaucoup relayés par les médias et beaucoup plus intéressants et attrayants. Je parle notamment des films chiliens de Pablo Larraine, de Jodorowsky, on y va, même si ça réclamait peut-être juste un hors compétition. Mais la suite de la Danza de la Realidad qui était sortie, on a un cinéma asiatique qui est présent dans la compétition, mais pour les plus connus, hein, Brillante Mendoza et Park Chan-wook, alors que certains esthètes, je dirais, et grands réalisateurs comme Koji Fukada, pardon, et Na Jong-in, qui n'ont même pas été sélectionnés, alors que leur film a bénéficié quand même de critiques plus qu'élogieuses, en fait. Hein.
Petite question, là, moi, j'essaie de me mettre à la place du spectateur potentiel nord-isérois. Les films dont tu parles, est-ce que ce sont des films qu'on a des chances de voir en Nord-Isère ?
Pour certains, oui, j'espère. Pour d'autres...
Non, tout ça pour dire, je me mets à la place du spectateur nord-isérois ouais. moyen. Est-ce que...
Alors malheureusement,
est-ce que c'est pas trop élitiste justement pour... Est-ce que c'est ça qui attire
non,
les
bah,
gens
Non, Malout, par exemple, de Bruno Dumont est passé à Bourgoin. Julieta de Pedro Almodovar est passé à Bourgoin. Oui, il y en a d'autres qui sortiront à Bourgoin. Alors pour le coup, Malout est un film assez catastrophique que je. Enfin, on peut aimer. Hein, j'ai entendu quelques éclats de rire dans la salle, assez timide, il faut dire. Mais le film est tellement lugubre et d'un humour assez bas de gamme, je dirais, pour vite classer, mais on verra, non, certains films à Cannes, et je pense, pour le coup, et j'espère qu'on verra davantage de films venant des hors compétitions et des sections parallèles, plutôt que de la compétition en elle-même.
Ok, est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut sauver, là, dans le...
Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je prendrais déjà dans leur compétition, alors pas la cavalerie américaine, hein, qui n'a surtout pas besoin d'une présence à Cannes pour se vendre, hein, mais The Strangers, par exemple, de Na Hong-jin, qui avait fait déjà ces deux précédents films fabuleux, The Chaser, The Murderer, qui sera, je pense, une grosse sortie asiatique. Je parlerai bien évidemment plus du documentaire que sa fiction de Jim Jarmusch, Gimme Danger, sur les Stooges. On aura aussi le exil de Ricky Pan, on aura la mort de Louis XIV de Albert Serra, avec un univers visuel assez fascinant.
Monsieur Léo.
Voilà, Léo, exactement. Léo, qui a eu d'ailleurs la Palme d'Or d'honneur. Et il y a Harmonium de Koji Fukada, il y a le Neruda de Pablo Larraine, le Poesia sin fin de Alejandro Jodorowsky, le dernier film de Solveig Anspach, L'effet aquatique, qui est un film posthume pour le coup, hein. Et le dernier Marco Bellocchio, le dernier Paul Schrader, et Joachim Lafosse. Enfin, on a vraiment de quoi voir vraiment de très très bons films à venir, en tout cas, très prometteurs pour le coup.
Alors, on est dans Champ Libre, qui, il ne faut pas l'oublier, est quand même une émission qui se veut rock,
ouais.
Et qui tourne... autour du rock, mais avec la force centrifuge, voilà. On finit par tourner très voilà. Très loin du centre. Oui, tu parlais du Gimme Danger de oui. Jim Jarmusch, consacré à Iggy Pop.
À Iggy Pop,
et Stooges,
oui.
Donc ça peut être intéressant pour les auditeurs de Champ Libre. Moi, il y a une question que je voulais te poser. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, dont je parle chaque fois qu'il sort un bouquin. Je crois que tu es présent souvent.
Jonathan Little ?
Non, je voulais parler de M. Philippe Djian.
Ah, Philippe Djian, oui, oui. Alors voilà, ça, j'allais venir aussi, tout à fait. J'allais venir pour les films où je parlais de forme cinématographique. Il y aura, à mon avis, des films qui ont bouleversé ce code, justement, ce langage cinématographique. Par exemple, le fameux L de Paul Verhoeven, qui a des critiques dithyrambiques et qui montre un film, paraît-il, hein, parce qu'il n'est pas encore sorti, magistral de bout en bout, comme le Aquarius, film brésilien, et le Guiraudy, qui paraît-il sont des films juste immanquables dans un palmarès, si on veut mettre en avant justement le cinéma. Et non, bah, L, par exemple, de Verhoeven qui n'a jamais été primé à Cannes, pour le coup, ça aurait été une véritable nouveauté et une très très bonne surprise. Ben non. Non, tant pis.
Donc pour développer un peu, on en reparlera peut-être lorsqu'on pourra le voir, mais Elle de Paul Verhoeven, Elle, c'est le titre de l'avant-dernier roman de Philip Jaffe.
Alors c'est O, en fait, son roman, effectivement, qui a été dont le titre s'est transformé en Elle de Paul Verhoeven.
Voilà, dans lequel Jean parle au féminin.
Oui, tout à fait.
Et c'est un film avec Isabelle Huppert.
Qui a été complètement d'ailleurs adoubé par Jean, hein, parce que Jean a déjà été très content. Il avait pensé à Isabelle Huppert pour faire le film, pour faire son roman.
Également
et quand
Virginie
et Fiera. Et quand il a su que c'était Verhoeven qui faisait le film, il a même affirmé qu'il n'en espérait pas tant, en fait.
D'accord. Parce que Jean est quand même un habitué des ratages aussi.
Ah oui, oui, oui.
Maloute, il faut éviter.
Les 30 premières minutes. Et puis après, c'est un bon court-métrage de 30 minutes. À passer 20-30 minutes, c'est bon, on peut sortir. On verra la même chose dans le reste du film. Mais après, non, les comédiens peuvent être rigolos ce laps de temps-là. Ensuite, on peut passer.
Paul Schrader.
Avec son film
Dog Eat Dog,
avec les retrouvailles de Nicolas Cage et Willem Dafoe après Sailor et Lula, 25 ans après Sailor et Lula. À voir, effectivement. Et il faut aussi souligner que Sean Penn a reçu peut-être les pires critiques et les pires notations de la presse et en se faisant huer copieusement. À voir. Effectivement.
Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Monsieur Sean Penn, qui attire aussi bien les critiques que les louanges, d'habitude,
oui.
Il ne laisse pas indifférent quand même.
Un film qui se fait huer à Cannes, critiquer, traîner dans la boue, effectivement, ça ne veut rien dire, et c'est pas forcément mauvais signe, hein. Donc à voir, effectivement, pour une sortie en salle, à vérifier et à attendre.
Voilà, Damien, tu avais vu passer des choses à Cannes qui te semblaient intéressantes.
Moi j'aimerais juste revenir sur le Dolan dont on a déjà pu voir certains extraits qui me semblent prometteurs, avec une belle brochette d'acteurs français et pas les plus mauvais, hein, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Léa Seydoux et Marion Cotillard aussi.
Oui, ouais, et puis pour le coup, pour le coup, c'est vrai que c'est un metteur en scène qui va, je pense, d'un point de vue univers, d'un point de vue narratif, d'un point de vue visuel, sera peut-être l'un des plus intéressants présents dans le palmarès, en tout cas.
Mais effectivement, comme il avait été primé il y a 2 ans avec Godard, donc.
Ouais, pour un prix du jury, là, bon, il a le grand prix, c'est une petite ascension, quand même.
Voilà, c'était la partie cinéma, critique de Cannes,
oui.
Notre festival de Cannes à nous. Champ Libre n'était pas représenté à Cannes, n'était pas plus nombreux que Canal+.
Non.
musique, alors, vous connaissez le groupe anglais Hot Chip ? Non, vous n'êtes pas branché.
Non.
Chip, c'est un groupe qui cartonne quand même depuis quelques années. La voix de Chip, c'est un monsieur qui s'appelle Alexis Taylor, depuis 2000. Il chante dans ce groupe et il en a eu un petit peu marre justement de la musique de Chip, donc il a décidé d'enregistrer un album seul avec son piano, donc le piano et la voix. Et comme c'est un gars qui a de l'imagination, il a intitulé son album « Piano ». Il aurait pu l'appeler « Voix ». Il l'a appelé « Piano ». On écoute un titre de ce Alexis Taylor. Le titre, c'est « Reaper Man ». L'album, c'est « Piano ». Et profitez-en pour vous aérer les oreilles, parce que tout de suite derrière, on passe au métal.
Eh oui. Started my life over again as a repairman whose hands do not work. Now why would I? I never meant to sing us in the ground. A mark is made, a mark upon us, year of mine.
kiss when you were mine, made a man out of me. All hell and water, I a little small comfort only now.
Alexis Taylor, la voix de Hot Chip, un nouvel album. Alors, un nouvel album, un album qui sort au mois de juin. Il est intitulé Piano, parce qu'il joue du piano, le mec. Alors, je ne sais pas s'il joue debout ou pas. En tout cas, Damien est là, prêt au combat.
Et oui, chers auditeurs, bonne nouvelle. Entre deux films d'horreur, Rob Zombie prend encore le temps de faire des disques. Le nouveau venu s'appelle The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Dispenser. Preuve que son goût pour les titres à rallonge est resté intact.
Peut répéter.
Et il n'est pas impossible que je passe plus de temps à prononcer les titres de chansons qu'à me prononcer sur elles. Donc je répète le titre de l'album. The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Dispenser. Pour des raisons pratiques, on l'appellera Electric Warlock.
Celebration Dispenser.
Celebration Dispenser, autant
pour moi. Ah, t'avais oublié un mot.
C'est tellement long.
On t'interrompt plus.
Alors, bien, on démarre sur le très court The Last Demon Defeated, intro dans laquelle Rob martèle le nom de son album, on le comprend. Ensuite, Satanic Cyanide, The Killer Rocks On, est un morceau à riff, la guitare de John Five fait toujours des merveilles. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un peu de pub, parce que si vous avez le métal et la guitare, il faut absolument acheter ses disques. Il a joué avec Marilyn Manson, il joue maintenant avec Rob Zombie, et franchement, dans le métal, c'est une sommité. Puis, dès le troisième titre, on entre dans la matière à headbang, avec The Life and Times of a Teenage Rock God, titre péchu, punchy, à l'image de certains vieux morceaux de bravoure comme Meet the Creeper. Alors, on va l'écouter dans un instant. Well, Everybody's Fucking in a UFO était le single qui annonçait Electric Warlock. Un hommage plus qu'appuyé à Primus, ce morceau aux sonorités communes avec Winona's Big Brown Beaver annonçait un retour en grande forme de Mr. Zombie. Jugez vous-même.
Almost 10 feet tall. He's free to do it. Bones are real in the rubble of the Berlin Wall. was Mega Metropolis. And Joseph Mick took the world, called Rat into her chip.
Voilà, c'était « Well, everybody's fucking in a UFO ». Ensuite, un titre long mais à une durée courte, « A hearse that overturns with the coffee bursting open », et plus un interlude qui nous fait profiter encore une fois de la guitare, sèche cette fois-ci, de John Five. Mais l'accalmie est de courte durée, on revient au saturé avec « The hideous exhibitions of a dedicated go-hole », pour moi l'un des meilleurs morceaux du disque, suffisamment sauvage pour réveiller un mort. Medication for the Melancholy nous montre que la deuxième partie de l'album est vraiment la meilleure. Zombie s'affirme comme le boss actuel du métal industriel américain. Et oui, désolé Marine Manson. In the age of the consecrated vampire we all get high renoue avec le phrasé saccadé presque rappé qui ne s'était pas encore imposé jusque-là. Un titre qu'on a donc hâte d'écouter au Trianon le 16 octobre. Seule date française de Rob Zombie pendant sa tournée, il faut le souligner. Encore un titre court, Super Doom Ex Gloom Part 1, la part 2 n'est cependant pas sur l'album, figurerait sans problème sur la BO d'un de ses films d'horreur. In the Bone Pile a sans doute l'un des meilleurs refrains de l'album qui compense un couplet qui sonne un peu réchauffé. Get Your Boat Son, That's the End of Rock and Roll détonne avec un sample de Bebop et Lula. C'est étonnant.
Well.
Et version métal, qui plus est, version métal. Et pour le coup, bah, ça donne envie de sauter partout, ni plus ni moins. Dernière piste de l'album, Wurdalak cumule deux exploits. C'est celle qui a le titre le plus court et celle qui a la durée la plus longue. On ne va pas s'en plaindre, c'est parfois heavy comme du Mastodon, parfois léger comme ce piano final, en toute fin de morceau. En bref, que dire de ce Electric Warlock ? Eh bien, la deuxième moitié est largement meilleure que la première et en un sens, ben, c'est frustrant. Parce que les morceaux durent environ 2 minutes 30, tous. Et finalement, on aurait préféré avoir moins de morceaux, mais de durée plus longue. Cela dit, l'or semblait bon, Rob Zombie continue ce qu'il sait faire, et le fait toujours aussi bien, mieux que d'autres groupes avec la même longévité.
Merci Damien. Alors, moi je voudrais rajouter que, mais encore une fois, c'est pas radiophonique, que cet album... a une pochette superbe. Je le disais à Damien tout à l'heure, on dirait la pochette d'un album de funk psyché de la fin des années 60, à les pochettes de Sly and the Family Stone, chose comme ça, donc magnifique pochette quasi psychédélique.
Et justement, il faut souligner le fait que c'est Rob Zombie lui-même en fait, qui fait ses pochettes. C'est-à-dire que sur un album, il maîtrise vraiment tout. Dans la mesure où il réalise des films d'horreur, il réalise aussi ses clips, qui sont pour certains presque des courts-métrages, hein, parce que le clip de « Where Everybody's Fucking in a UFO » dure presque 10 minutes, alors que le titre dure 2 minutes 45. Donc vraiment, il tient à maîtriser autant sa musique que son esthétique.
Mm-hmm.
Donc ça va de la pochette au clip.
Et la pochette, c'est lui qui l'a fait, c'est même la
oui.
maquette.
Oui, c'est-à-dire que oui, c'est toute une sorte de patchwork.
Ce, okay. ce qui signifie que dans le métal, on a encore l'idée que... on puisse enregistrer et distribuer un album et non pas un titre.
Et oui, et c'est d'ailleurs enfin, quelque chose qui est quand même courant dans le métal parce qu'il y a, enfin, je dirais qu'il y a une fanbase qui est assez fidèle. Et surtout d'ailleurs pour Rob Zombie quand même, qui a une fanbase très solide.
Ce qui est amusant également, ce sont les titres à rallonge. Il y a un côté situationniste dans le... Voilà. J'imagine bien le fan moyen de métal, pas très bon en anglais, on est quand même en France, c'est qu'il va lâcher son disquaire. Alors vous allez me dire, il n'y a plus de disquaire, il ne risque rien, il va le commander sur Internet. Mais j'aurais bien aimé voir la tranche du vendeur et de la vendeuse, je ne sais pas, à la grande surface culturelle du coin, lorsque le gars arrive et qu'il dit, est-ce que tu as le... Tu peux nous le redire?
Electric Warlock.
The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser.
Ce qui signifie?
Alors, en fait, dans la mesure où il n'y a pas de complément, en fait, voilà, c'est des adjectifs et des noms qui sont à la suite. Donc, en gros, enfin, je saurais même pas le traduire dans la mesure où c'est pas dans quel ordre il faut
donc
mettre
voilà,
les mots.
Sujet du bac, option anglais, Rob Zombie. On écoute un dernier titre de ce truc à rallonge.
Donc celui donc que j'avais décrit comme l'un des meilleurs morceaux, The Hideous Exhibition of a Dedicated Gore Whore. C'est-à-dire les hideuses exhibitions d'une pute gore,
ouais.
Globalement. Et...
carrément dédicaté.
Voilà, voilà. Et on écoute ça maintenant.
Wow, you fucking whore. What fucking whore. What are you whore? What are you whore?
Zombie, je ne répéterai pas le titre.
Voilà, on va se tenir juste à Electric Warlock.
Voilà, Rob Zombie. Alors, je voudrais terminer cette émission en vous faisant un petit compte-rendu de visite à une exposition rétrospective qui se tient depuis déjà quelques semaines et jusqu'au mois de juillet. Au MAC Lyon, Musée d'art contemporain de Lyon. Pas souvent qu'on parle, quoique, d'art contemporain dans cette émission, mais il se trouve que la personne autour de qui a été montée cette rétrospective, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont on parle souvent dans l'émission. Je veux parler, bien sûr, de notre mère à tous, Madame Yoko Ono. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui commencent déjà à affûter des couteaux qui sont déjà bien ébréchés. Et je vous renvoie tout de suite dans les cordes parce qu'on parlera pas de musique. On va parler de sculpture, de cinéma, etc. Mais comme certains s'impatientent, Je vous propose d'écouter un petit bout quand même du dernier album de Yoko Ono qui s'appelle également Madame Lennon. Et ça tombe bien, c'est le titre du morceau. Yoko Ono, alias Mrs. Lennon, c'est également le titre du morceau et il est extrait du dernier album de la dame qui date de 2016 et l'album lui est intitulé Yes, I'm a Witch Too. Oui, je suis une sorcière aussi, ce qui prouve que Yoko a de l'humour. Moi, je l'aurais perdu depuis le temps. Alors, revenons-en à la fameuse rétrospective du MacLyon, Musée d'Art Contemporain de Lyon. D'abord, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui n'y sont pas encore allés, cette expo a ouvert ses portes le 9 mars. Elle fermera ses portes le 10 juillet. Donc, il vous reste encore du temps pour y aller. L'exposition s'intitule « Lumière au singulier de l'aube » et c'est la première rétrospective en France sur l'œuvre de Yoko Ono. Ça signifie quoi ? Trois étages d'expo, une centaine d'œuvres présentées depuis ses premiers travaux qui datent du début des années 50, 1952, excellente année d'ailleurs. À l'époque, elle écrivait des poèmes illustrés Et puis 60 ans de création en tout, pour en arriver finalement aux grandes installations dont elle a l'habitude depuis la fin des années 80, sans parler des films, des performances, des films, oui, aussi, etc. Hein. Alors, on va entrer un petit peu dans le détail. Souvent, alors Yoko Ono, il faut savoir qu'elle est née en 1933, hein, donc elle est née au Japon. Elle a une formation de piano classique. C'est pas n'importe qui, elle fait partie d'une grande famille. Elle sait ce que signifie la guerre, les bombardements et Hiroshima. Et ce n'est que dans les années 50 qu'elle va intégrer un mouvement d'art qui s'appelle Fluxus, même si elle ne le revendique pas. Alors, pour ceux qui sont branchés, Fluxus, c'est en musique John Cage, Lamonté Young, etc., etc. Et je connais un peu moins les noms des autres artistes graphistes de ce mouvement-là. En tout cas, elle se fait remarquer pour des œuvres qui s'appellent des peintures inscriptions. Je vous le fais en français. Alors, c'est quoi une peinture inscription ? Eh bien, c'est une peinture sans peinture. C'est-à-dire que vous ne verrez aucune œuvre exposée dans un musée. La seule chose que l'on trouve, ce sont les instructions. C'est-à-dire un petit papier dans lequel elle dit une toile sur laquelle on verrait un pamplemousse. À vous de la peindre, cette toile-là.
D'accord.
Donc, je vous donne la définition des peintures inscriptions. La peinture instruction divise la peinture en deux fonctions différentes. L'instruction d'une part et la réalisation de l'autre. L'œuvre devient une réalité quand on la réalise, mais les instructions peuvent être réalisées par très nombreuses personnes de façon différente. Ça permet à l'œuvre d'exister sous d'infinies variations que l'artiste ne peut pas prévoir. Donc ça, c'est très intello, mais c'est quand même l'idée de départ de ces fameuses peintures instructions. Donc on peut voir dans l'expo un certain nombre de petites fiches concernant cette période-là. Dans les années 60, Yoko se lance dans les performances. Il y a une performance célèbre qui s'appelle Cut Piece, dans laquelle l'artiste est assise sur la scène avec à côté d'elle une paire de ciseaux. Et les spectateurs sont invités à monter sur la scène et à découper les vêtements de l'artiste. Cut Piece. En 66, elle commence la création d'installations. En particulier, une pièce entière dans laquelle on ne voit que des ombres chinoises. Et on va comprendre très rapidement que ces ombres, c'est ce qui reste des humains qui ont été pulvérisés et quasiment photographiquement impressionnés sur les murs après l'explosion atomique de Hiroshima ou de Nagasaki. Ça s'intitule Shadow Piece. Bon, dans les années 60, elle va rencontrer qui on sait, dont je ne parlerai pas ici. Ensemble ou seule, elle va réaliser un certain nombre de films que l'on peut voir également dans l'expo. Je pense en particulier à un film qui s'appelle Fly. Alors, c'est quoi le film ? Ben, c'est une instruction, là aussi. Et le film existe, on peut le voir. C'est une mouche qui court sur le corps nu d'une femme et qui, à la fin, s'envole et part au loin par une fenêtre. Alors, évidemment, il y a du monde devant le film, sauf que le film de Yoko Ono, qui date de 66, je crois, est un film féministe qui veut dénoncer l'utilisation du corps de la femme dans l'art, le cinéma, la publicité, etc.
Et attention, excuse-moi, tu disais par contre que les films n'étaient pas visibles tout le temps, c'est-à-dire qu'ils sont à l'heure
Alors, le film dont je parle, Fly, est visible tout le temps, mais les films plus longs, par exemple, le Bedding for Peace, vous savez, le Bedding... John et Yoko passent une semaine dans un lit à l'Amsterdam Hotel pour comme forme d'engagement contre la guerre. Alors, Donc ça, c'est à heure fixe, il y a des séances, donc il faudrait pouvoir passer la journée au musée si l'on voulait voir tous les films. Quelques mots quand même encore sur les films en question. Ce sont des films expérimentaux, mais on devine déjà dans ces films-là les débuts d'un engagement politique pour la paix de Yoko et John, bien sûr. En 67, elle réalise des installations. Alors, qu'est-ce qu'une installation ? Ben, c'est un ensemble d'objets qui sont disposés dans la salle d'exposition, dans la salle du musée. Alors, je pense en particulier à une salle, une installation qui s'appelle Play It by Trust. C'est une table avec un jeu d'échecs sur la table, sauf que tout est blanc. C'est-à-dire que le jeu d'échecs est blanc, les pièces sont blanches. Donc si on veut pouvoir jouer aux échecs à deux sur ce type de table, il faut une absolue confiance en celui qui est en face. Play it by trust. Ouais. Il se trouve que lorsque j'ai visité l'expo, il y avait en même temps que nous deux classes de gamins, 2 ans, 3 ans. Et les gamins ont joué, on a vu deux gamins jouer aux échecs, entre guillemets, pendant une bonne demi-heure, sans se lasser sur cette fameuse, en tout cas déplacer les pièces, peut-être qu'eux avaient suffisamment de trust pour y arriver. Voilà, il y a évidemment une installation célèbre qui s'appelle Yes, un escabeau au plafond, une toile blanche avec quelque chose d'écrit dessus, une chure de mouche. Et c'est avec cette installation en 67 que Yoko a rencontré un musicien, guitariste, chanteur chez les Beatles, et lui a demandé de monter en haut de l'escabeau. En haut de l'escabeau, il y a une loupe, on prend la loupe et on regarde ce qu'il y a sur la toile. Et sur la toile, en tout petit, donc il faut la loupe, il y a écrit le mot « yes ». Et John Lennon dit « s'il y avait eu n'importe quoi d'autre, je serais parti en claquant la porte en disant « ces artistes contemporains sont insupportables, mais yes ». Ça m'a parlé, on a discuté toute la nuit et plus. Si affinité. Voilà, c'est la rencontre. Donc vous pouvez, si vous le voulez, à Lyon, aujourd'hui, en 2016, monter en haut de l'escabeau. Ça fait quelque chose quand même. Voilà, je vais terminer avec cette visite du musée. Il y a d'autres installations. Une installation qui s'appelle Touch Me. C'est une table. Sur la table de petites boîtes dans lesquelles il y a des éléments en marbre. Ces éléments en marbre sont des parties d'un corps féminin. Ils baignent dans l'eau et le spectateur est invité à mettre la main dans l'eau et à toucher la partie de son choix. Chose assez intéressante au niveau de l'expérience. Je vous demande d'essayer. Il y a également un labyrinthe en plexiglas avec un chiotte au milieu du labyrinthe, et pour accéder aux chiottes, pour pouvoir assouvir certains besoins naturels, il faut parcourir le labyrinthe en question. Alors, je n'ai vu aucun adulte dans le labyrinthe, mais les gamins de 3 ans se sont défoncés là-dedans. Il y a également les arbres à prières, donc des arbres sur lesquels on peut accrocher ses prières, ce que vous voulez, écrit sur un bout de papier. Et puis une installation qui s'appelle The Half Room, la demi-pièce. Donc c'est une pièce avec une table, une chaise et tout, sauf qu'il n'y a que la moitié de la chaise, que la moitié de la table, que la moitié du buffet, et que des moitiés, tout est blanc bien sûr. Voilà, et puis ici, deux choses assez extraordinaires. Une installation qui s'appelle Exit It, une centaine de cercueils de différentes tailles, avec dans chaque cercueil un arbre qui pousse et une musique, des oiseaux. Et on se balade au milieu de tous les cercueils. Donc je vous laisse deviner le propos. Et puis une autre installation, du plafond pendent des casques de soldats allemands à l'envers. À l'intérieur de chaque casque, des éléments de puzzle couverts de peinture rouge. Et la musique que l'on entend, c'est le chant des corbeaux. Lorsqu'on passe au milieu des casques. On a donc des œuvres récentes à travers lesquelles Yoko essaie de dénoncer une fois de plus la guerre. Voilà, je vais terminer pour cette expo en vous disant que chaque salle est repéré par des mots. Je vous donnerai simplement les mots et je pense que ça m'aidera à vous convaincre que cette personne-là ne peut pas être mauvaise. Au contraire, tout est blanc dans l'expo et les mots que l'on trouve à l'entrée de chaque pièce, c'est « imagine »,« rêve », »,« oublie », »,« oui », »,« eau », »,« touche », »,« sens ». Rien de négatif, que du yoko. Vous pensez y aller ?
Ouais, en tout cas, il y a pas mal de choses qui ont l'air disparates, intéressantes, et d'un point de vue même sensitif, assez, assez hallucinant. Donc oui, ouais, non, ça me... Moi, à titre personnel, je pense que j'irai, ouais.
Non, c'était voilà. Pas forcément prévu, mais tu m'as convaincu.
Alors, je pense qu'il n'est pas, c'est pas trop facile de parler d'une exposition comme ça à la radio. Mais moi, je voudrais terminer sur un point. Yoko Ono, c'est quelqu'un qui a été extrêmement décrié parce que c'était la femme d'eux. Ah. Il paraît que c'est elle qui aurait provoqué la séparation du groupe qu'on aimait tous. À le savoir, à mon avis. Et puis, je pense également qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes célèbres artistes au monde qui a été autant insulté, piétiné qu'elle.
Ok.
D'accord. Voilà. Yoko Ono, on se retrouve le mois prochain pour parler de cinéma de métal.
De métal, peut-être pas, de hard rock, oui.
D'accord.
Et du ciné, bien sûr.
Merci, Laurent, pour la technique. Et on se sépare avec un nouvel album d'un groupe intitulé Sulphur City. L'album Talking Loud. C'est un groupe qu'on pourrait ranger dans la catégorie rock blues, quelque part entre Gräßlich du Jefferson Airplane et Patti Smith ou Janis Joplin. Vous avez compris que la chanteuse est une chanteuse et non pas un chanteur. Ça sonne un peu Black Keys sur les bords. Voilà, ça sera le titre de clôture de ce chant libre Sulphur City, One Day in June. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bye.